vue d'ensemble de l'actualité.
We, the jury, in the above entitled matter as to count one, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty. Same caption, verdict count two. Third degree murder, perpetrating an eminently dangerous act, find the defendant guilty. Same caption, verdict count three. Second degree manslaughter, culpable negligence, creating an unreasonable risk, find the defendant guilty.
Préville PM.
Guilty, guilty, guilty. Trois fois, Derek Chauvin a pris le chemin de sa cellule, les menottes au poing. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que c'est le début d'un temps nouveau, entre guillemets, là? Puis je le dis sérieusement, là. On va aller rejoindre Valérie Beaudoin, notre spécialiste de la politique américaine et de la société américaine. Bonjour Valérie.
Bonjour Bernard.
Et Meeker Guerrier, qui est chroniqueur et animateur à RDS et nouveau. Meeker, bonjour.
Bonjour Bernard.
Valérie, d'abord, mets-nous un petit peu la table. Les derniers événements, l'espèce d'atmosphère qui règne aux États-Unis à la suite de cette décision.
Oui, bon, ben c'est ce que les procureurs espéraient, hein, qu'il soit reconnu coupable. Est-ce qu'on s'attendait à ce que ce soit coupable sur toute la ligne, dont tous les chefs d'accusation? Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui croyaient que c'était possible. Et pourquoi, Bernard? Parce qu'il y a un historique aux États-Unis dans des cas de brutalité policière, ici, d'un meurtre carrément, où il n'y a pas... Écoutez, les policiers, soit ils n'ont pas de...
Ils n'ont pas d'accusation.
Exactement, pas d'accusation. Donc, il n'y a même pas rien qui est présenté devant un tribunal où ils sont acquittés, même si les preuves sont assez accablantes. Donc, c'était quand même une première historique. Oui, il y a eu d'autres cas avant, mais un cas aussi médiatisé que celui de George Floyd, c'est vraiment quelque chose. Et pour moi, les images qui m'ont marqué, qui vont marquer pour longtemps, c'est les soupirs de soulagement, les applaudissements, les pleurs des gens qui étaient à proximité du palais de justice quand ils ont entendu finalement que Derek Chauvin, cet ancien policier, était reconnu coupable du meurtre de George Floyd. Vraiment, c'est un soupir, je pense, que l'Amérique a poussé en même temps.
Meeker, qu'est-ce que ça représente pour toi, cette décision, cette condamnation?
Ben honnêtement, je dois dire que j'ai des sentiments un peu partagés parce que évidemment, bon, je suis noir, j'ai de la famille, beaucoup de familles aux États-Unis également. Puis pour vivre un peu dans un climat, dans le climat social qu'on connaît présentement, puis pour avoir été accosté par la police à plusieurs reprises pour absolument aucune raison, c'est sûr que ça a un écho et ça me réjouit, mais en même temps, j'ai de la difficulté à me réjouir parce que si Derek Chauvin a été condamné, c'est aussi parce que la preuve était accablante. Et quand je dis accablante, c'est qu'on a vraiment toute la séquence du début à la fin de ce qui s'est passé et comment George Floyd a été traité par la police. Donc, on voit exactement ce qui s'est passé, mais je peux pas m'empêcher de penser à toutes les fois où il n'y a pas eu de caméra, il n'y a pas eu de témoins, il n'y a pas eu d'image et tous les hommes noirs non armés. Là, je précise, ceux qui n'étaient pas armés qui ont été abattus par la police aux États-Unis ou même ici au Canada. Et j'englobe aussi les minorités à travers ça, pas seulement les Afro-Américains. Donc oui, je suis content, mais d'un autre côté, c'est parce que c'était un peu évident et pour tout le monde, ça l'était. Quand on voit ce qui s'est passé, il n'y avait aucun doute dans l'esprit de qui que ce soit, même ceux qui sont qui ont le plus de mauvaise foi possible. C'est impossible de dire le contraire et je peux pas m'empêcher de penser à tous ceux qui disent toujours « Oui, mais il faut attendre, on sait pas ce qui s'est passé avant, etc. » Mais là, on sait exactement ce qui s'est passé avant et comment ça s'est terminé.
Donc, si je te comprends bien, Meeker, tu dis « Je suis soulagé, oui, mais je veux voir la suite. » Est-ce que ça va vraiment marquer un point tournant? Mettons que tu es encore un petit peu sceptique, puis être à ta place, je le serais aussi.
Mais c'est l'historique également des relations entre la police et les communautés minoritaires aux États-Unis. Et en général, je dirais dans les pays occidentaux, c'est que on a une relation de méfiance des deux côtés également. Et ça, ça aide en rien. Et ça donne des situations comme on l'a vu là. Mais comme on l'a vu également avec Jacob Blake, parce qu'il y a des dizaines de personnes comme ça qui ont été assassinées par la police, qui sont mortes sous les balles de la police pour aucune raison. Bon. Et ça, ben, on en parle beaucoup maintenant, mais avec ce jugement-là, il faudrait peut-être regarder également du côté des autres jugements qui ont pas été portés ou des policiers qui ont été acquittés, là.
Valérie Beaudoin, y a quand même une volonté politique de procéder à des changements dans les lois américaines pour pousser dans le dos, dans le fond, du nécessaire changement de culture. Est-ce que ces lois seront adoptées? Biden le veut, lui.
Oui, Biden, c'est ce qu'il désire parce qu'il veut vraiment que ça soit justement pas un événement qui est isolé de dire, ah, il y a une condamnation parce que justement, comme Meeker vient de le dire, il y a des circonstances accablantes et là, ça passe comme ça parce qu'il y en a eu d'autres cas. Là. Eric Garner, pour en nommer qu'un, en 2014, technique d'étranglement aussi, lui aussi disait qu'il ne pouvait plus respirer et il n'y a même pas eu de procès dans ce dossier-là. Donc oui, il faut aller plus loin. Et là, il y avait vraiment un projet de loi qui a passé les premières étapes. La Chambre des représentants, ça s'appelle George Floyd Justice in Policing Act. Ça, c'est vraiment pour que les policiers, il y a plus cette espèce d'immunité automatique s'il y a des actes qui sont faits violents, qu'il y a des caméras corporelles, qu'on ait du meilleur financement pour les entraînements, les relations avec les communautés. Donc vraiment une réforme du système de police pour mieux surveiller tout ça. Mais le problème, c'est que oui, ça passe du côté de la Chambre des représentants qui, je vous rappelle, est à majorité démocrate. Mais la majorité au Sénat, c'est tellement mince que c'est pas ça qui va les aider. Et jusqu'à maintenant, ça fait des mois qu'on essaie d'avancer ça, même quand c'était sous l'autre Sénat à majorité républicaine, et ça avance pas. Donc on veut même pas considérer de voter sur ce projet de loi. Donc, est-ce que ce qui vient de se passer, ça va donner peut-être un autre souffle à ce projet? Il y en a beaucoup qui l'espèrent. Et Bernard, si on a le temps, je te laisserai entendre Joe Biden hier. Il a eu sa réaction, donc il a appelé lui la famille de George Floyd dans un premier temps pour leur dire, bon, qu'il était soulagé, comment est-ce qu'eux se sentaient. Et par la suite, il y a eu une déclaration aux côtés de Kamala Harris. Je te laisse l'entendre.
Bien sûr. We have to listen. I can't breathe. I can't breathe. Those are George Floyd's last words. We can't let those words die with him. We have to keep hearing those words. We must not turn away. We can't turn away. We have a chance to begin to change the trajectory.
Alors, on doit écouter « I can't breathe », »,« Je ne peux plus respirer », ces mots de George Floyd doivent rester avec nous. On doit continuer à les entendre, dit le président Biden. Meeker, je me tourne vers toi, t'es un chroniqueur sportif aussi. Le mouvement Black Lives Matter a pris beaucoup d'ampleur, particulièrement dans le sport professionnel. Les équipes de sport ont joué un rôle important, je pense, pour sensibiliser l'Américain moyen, pour ne pas dire l'être humain moyen. Et il y a eu quand même des réactions très senties à la condamnation de Derek Chauvin hier. Il y a beaucoup d'équipes sportives qui ont manifesté leur appui pour cette condamnation.
Ben, je veux faire juste une petite correction, puis c'est pas une pierre que je lance à qui que ce soit, mais quand on dit que les équipes sportives ont témoigné, oui, c'est vrai que ce sont les équipes sportives, mais d'abord et avant tout, c'était les athlètes. Rappelez-vous ce qui s'est passé au mois d'août dernier quand je vous parlais de Jacob Blake, qui a été tué. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et les joueurs de la NBA ont démarré le courant, si on veut, en boycottant leur match, en faisant la grève tout simplement, en disant, nous, on ne jouera pas à cause de ce qui s'est passé. On veut que la population américaine et mondiale porte leur attention sur ce qui se passe aux États-Unis. À partir de là, ça fait de boule de neige jusqu'à la Ligue nationale de hockey, qui n'est pas reconnue pour être la ligue la plus progressiste, si on peut le dire ainsi, ou qui prend le plus de place dans les mouvements sociaux. Donc, tous les athlètes se sentaient concernés, surtout les athlètes noirs d'abord et avant tout. Il y a plusieurs athlètes qui ont réagi hier. On pense à Lewis Hamilton, entre autres. Il y a LeBron James, bien sûr. Naomi Osaka, dont le père est haïtien aussi. Donc tout ça, ça pousse les équipes et ça force un peu les équipes à ne plus fermer les yeux. On a vu tout ce que les équipes ont fait également aux États-Unis juste avant le vote. La dernière campagne électorale américaine où on a ouvert plusieurs endroits, plusieurs arénas et enceintes sportives pour que les populations qui n'ont pas ou ont moins accès au vote puissent aller voter. Et ça fait une différence. Mais toute cette pression-là, il faut se rappeler que ça vient de la base, ça vient des athlètes d'abord et avant tout, qui pour la plupart viennent de milieux qui ne sont pas nécessairement favorisés. Je pense aux joueurs de football en général qui viennent parfois de milieux difficiles. Oui, il y en a qui viennent de milieux un peu plus aisés, mais en général, c'est un des moyens qu'ils utilisent pour se sortir un peu de la misère, c'est le sport. Et quoi de mieux que le sport pour rassembler tout le monde, mais également parce que le sport a une lumière. Le sport, c'est probablement l'activité qui rejoint le plus de personnes sur la planète, en plus de la culture et du cinéma. Mais le sport en particulier a un effet de levier, mais un effet également, je pourrais dire, de visibilité qui est incomparable. Et ça, les athlètes en sont de plus en plus confiants et l'utilisent. Mais c'est pas d'hier non plus. Là. Rappelez-vous, Tommy Smith et John Carlos, ils ont utilisé leur voix également pour faire avancer.
En 1968, 200 mètres sur le podium, les deux ont levé le poing ganté. Là. Oui.
Et Mohamed Ali aussi, rappelez-vous, qui a refusé d'aller à la guerre du Vietnam. Donc tout ça, ça fait partie un peu de la culture également sportive.
D'accord, très très bien. Valérie Beaudoin, en conclusion?
Oui, en conclusion, dire que c'est pas terminé ce qui se passe. Il y a une enquête qui a été annoncée aujourd'hui. Le département de la justice qui va enquêter sur le service de police de Minneapolis. Parce qu'on se rappelle, eux, au début, ils avaient même donné un communiqué en disant que quelqu'un était décédé pour des raisons médicales. Donc, il y a vraiment eu des bavures à ce niveau-là. Et aussi, ce qu'on va regarder, c'est la suite des choses. Donc, la sentence de Derek Chauvin, c'est dans 8 semaines. On pense autour de 12 à 20 ans, peut-être. Mm. Et au mois d'août, finalement, eh bien, ce sera les 3 autres policiers qui sont accusés d'être complices de Derek Chauvin. Ah, et ça oui. sera leur procès.
Faut pas les oublier. Valérie Beaudoin, spécialiste de la question américaine, chercheuse à la chaire Raoul Dandurand. Merci beaucoup, Valérie.
Merci.
Et Maker Guerrier, chroniqueur animateur à RDS et Nouveau notamment. Merci beaucoup, Maker. Très apprécié.
Merci, Bernard. À bientôt.
Luc Lavoie.
Oui, Bernard.
Toi qui suis la société américaine avec beaucoup d'attention, tu as réagi comment hier?
Énorme soulagement, mais pas surpris du tout. Je veux dire, Valérie l'a souligné et d'autres avant ça.
C'était accablant.
La preuve était tellement accablante, c'était impossible d'arriver à une différente conclusion. Mm. Mais je me suis intéressé hier en regardant ça, Bernard, à l'aspect humain de l'affaire. J'ai écouté les membres de la famille de Floyd parler. J'ai écouté le soupir de soulagement qu'on a entendu dans la rue où il a été assassiné. Mm. J'ai aussi lu ce matin dans le Daily Mail, le grand quotidien britannique, un article sur qui était ce Derek Chauvin. C'était une petite merde. Tu sais, c'était une espèce de policier bully qui a déjà sorti son arme vers un enfant de 12 ans qui est en train de jouer à envoyer des dards sur une porte. Tu sais, des dards.
Un cowboy sans jugement.
Sans jugement, froid. Connu pour être raciste, il s'énervait beaucoup quand il y avait des gens de couleur autour de lui. Un espèce de petit con.
Tu te demandes comment ça se fait qu'un être humain comme ça est devenu policier?
Oui, puis pas seulement ça, Bernard, et c'est là que je veux en venir. C'est que il y a eu à peu près comme 17-18 plaintes contre lui depuis environ 3-4 ans avant que cette affaire-là arrive. Wow. Et il était toujours policier. Et voilà à quoi je veux en venir. La police américaine, avant de faire toutes sortes d'enquêtes, puis de bébelles, puis d'analyses, faites le ménage. Gardez pas des êtres comme ça qui sont là. À un moment donné, 17 plaintes, puis certaines qui se sont avérées fondées, une espèce de petite ordure comme ça, un petit con.
Il va falloir que les syndicats de policiers fassent le part, Luc. Hein? Il va falloir qu'ils acceptent. Hein? Ben oui.
Évidemment, mais tu vois, ce gars-là, ce Derek Chauvin, il avait choisi le quart de travail le plus difficile, c'est-à-dire 4h de l'après-midi à 2h du matin dans le quartier le plus violent de la région. Pourquoi? Parce qu'il aimait ça casser, des membres, puis donner des coups de pied, puis des coups de poing, puis ainsi de suite. Alors qu'ils commencent par faire le ménage dans les forces policières. Je veux dire, déjà, ça va être la moitié du problème va être réglé. On voit bien en lisant ça. Puis George Floyd, ben mon Dieu Seigneur, je vais terminer là-dessus, Bernard. George Floyd, sa véritable histoire, c'est quoi? Il vient du Texas où les Noirs étaient traités comme tu sais quoi. Mm. Ils ont décidé de déménager vers le Minnesota, une affaire plus ouverte, plus libérale au sens noble du terme.
D'accord.
Et George Floyd, quand sa mère est décédée, c'était le petit gars maman, il est tombé dans une profonde dépression, il est tombé dans la drogue, et ça a amené où ce que cela a amené. Et hier, moi, franchement, là, à un moment donné, j'ai eu des quasi-sanglots qui m'ont pris. Là, quand je voyais ces gens-là, tout ça, je me dis, mais hein, ça dure depuis que le pays existe, cette affaire-là. À un moment donné, là, il faut qu'ils fassent leur ménage.
Merci, Luc. Merci beaucoup. Okay. On se reparle un peu plus tard. Après la pause, il y a quand même une certaine continuité avec le sujet qu'on vient de traiter, parce que là, le gouvernement Legault annonce 4 nouveaux projets pilotes avec la Sûreté du Québec pour tester l'utilisation de caméras corporelles chez les policiers. On en parle avec l'ancien numéro 2 de la Sûreté.